CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
Santé, bien-être, assiette, pâquerette avec, pour débuter, Karine Justeau, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. Bonjour Karine.
Bonjour David, vous êtes bien sérieux ce matin, je trouve.
Sérieux ?
Mais oui, vous êtes sérieux.
Mais comment, nom d'un petit bonhomme, on va parler quoi
d'un
aujourd'hui ?
D'un sujet sérieux.
C'est ça, je suis influencé.
C'est ça.
Je suis sous influence.
Voilà, donc arthrose et obésité.
Ah bah oui, c'est
sérieux.
Bien. Ah bah,
hein,
oui,
c'est
oui,
sérieux. Hein. Parce que, bah, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de liens entre ces deux pathologies. Et donc, voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère, c'est le cas de le dire. L'arthrose, c'est une pathologie dont on dit qu'elle est dégénérative et c'est le cartilage articulaire, en fait, hein, qui va s'abîmer et qui va, au fur et à mesure que le temps passe, provoquer des douleurs chroniques et qui peuvent aller vraiment sur des gènes très, très importants dans la vie quotidienne avec des risques d'isolement, une hausse du risque de dépression parce que on peut moins marcher, donc on a moins d'autonomie, etc., etc.
De type, je peux plus ouvrir ma bouteille d'eau.
Par exemple, hein, effectivement, vous avez raison de le préciser. L'arthrose, ça a plusieurs localisations, on va dire. Les plus connues sont celles des genoux, des hanches, des doigts. Donc, vous voyez, c'est extrêmement handicapant. Ça peut le devenir en tous les cas. D'accord ? Alors, pourquoi ces pathologies-là ? Alors, déjà, soyons factuels, il y a à peu près 50% qui est d'origine génétique, d'accord ? Donc là, effectivement, si on a des parents, grands-parents qui sont tout pleins d'arthrose, on n'y peut pas grand-chose. Hein. Après, c'est comme toutes ces pathologies chroniques, il y a toujours une part dans l'environnement qui va nous permettre quand même soit d'accentuer, soit au contraire de réduire les risques. Et figurez-vous, ça peut paraître logique d'un certain sens, que l'obésité augmente forcément les risques. D'accord.
Ah bah oui, on demande plus au corps peut-être pour ces mouvements.
Tout à fait, mais pas que, et c'est pour ça que je voulais le dire, parce que c'est très intéressant, genre en tous les cas je trouve, c'est-à-dire que cette obésité que l'on a, évidemment, elle augmente la charge mécanique hein, sur les genoux, sur les hanches, alors c'est peut-être moins valable pour les doigts, mais en tous les cas sur la partie basse du corps.
Et en premier lieu sur les pieds. Studio Delphine Hennequet. Coucou Delphine.
Coucou.
Naturopathe et mycothérapeute, de quoi vas-tu donc nous chafouiner les oreilles cette semaine ?
Eh bien aujourd'hui, je me suis dit ça y est, c'est le froid qui commence à arriver. On glisse petit à petit vers une saison qui demande un peu plus de rapprochement et de contact. Alors j'avais envie de parler d'ocytocine aujourd'hui.
Il y a encore le bois à couper quand même, c'est pas fini, on va rester encore un peu dehors. Là. Des bûches et des bûches. C'est quoi l'ocytocine, pardon ?
L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur et de l'amour. L'hormone du lien, de la confiance.
Donc automne, temps un peu frisquette, rapprochement, ocytocine quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. C'est le schéma.
On va saucissonner. C'est super dur à dire. Saucitociner, c'est bien.
Ah oui, c'est bien.
Saucitociner.
Mais ça marche pour tout le monde, les garçons comme les filles.
Eh ouais.
Ah d'accord.
On connaît l'ocytocine en fait parce que elle stimule l'émission de lait en fait et les contractions utérines. Donc on en entend beaucoup parler dans le cadre de l'accouchement, de l'allaitement, voilà. Mais c'est aussi une hormone que monsieur aussi dont monsieur dispose, monsieur et madame lors de l'orgasme par exemple. Chaque personne en fait va sécréter cette hormone. Et ça va renforcer en fait le lien entre les personnes concernées.
Et c'est fabriqué à partir d'où dans le corps si on avait à situer un peu l'endroit ?
On va dire que ça commence dans la tête.
Ah, d'accord.
Ça se passe dans la tête.
D'accord. L'ocytocine aujourd'hui.
Voilà, donc ça va influencer en fait, elle est très très importante hein, cette hormone, parce qu'elle va influencer en fait le comportement de la maman à partir du moment où elle met un enfant au monde. En fait, cette hormone va renforcer en fait son instinct de protection et son attachement par rapport au bébé. Donc voilà,
c'est quand même plus présent chez la femme que chez l'homme.
Tout à fait. Ouais. Mais chez l'homme, tout de même, en fait, cette hormone est aussi sécrétée et donc va renforcer la confiance, le sentiment, voilà, l'empathie, la générosité et la qualité du lien conjugal et même la réactivité au stress.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs.
Voilà, donc on continue après cette petite discussion avec Darshan. Je voulais vous parler de nouveau, je l'ai eu fait il y a à peu près une quinzaine de jours, de la venue de Denis Lachaud, qui est un romancier, qui a écrit pour son dernier roman, qui s'appelle Les Métèques, qui est en vente au haut-parleur, ainsi qu'à la librairie La Source. On reçoit Denis Lachaud le vendredi 25 octobre pour une soirée rencontre, discussion autour de son bouquin. Et l'après-midi, il sera en dédicace à la librairie La Source rue Alibert, une librairie que j'affectionne tout particulièrement. Tout ça pour vous dire, qui a ouvert au mois d'août, pour vous dire que nous recevrons Michel Poulard, qui a l'initiative de cette librairie, la semaine prochaine dans l'émission, et on parlera de nouveau de Denis Lachaud et d'un autre auteur qui s'appelle Hervé Krief, qui viendra au mois de novembre nous parler de son bouquin Internet ou le retour à la bougie. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine.
Bonjour à tous. Alors, nous sommes au Moulin des Arts de Saint-Rémy, à côté de Villefranche-de-Rouergue. Nous sommes actuellement en plein montage de l'exposition des artistes, des 10 finalistes qui participent à la 9e édition du prix de la jeune création. Donc, je suis avec les artistes ici présents qui terminent du coup le montage de leurs œuvres. Donc, je vais commencer par la première artiste qui s'appelle Anaïs Touchot. Donc, j'aimerais avoir une idée de qui tu es et pourquoi tu as voulu présenter cette œuvre dans le cadre de ce projet.
Alors, moi, je suis diplômée des Beaux-Arts de Brest en 2010 et 2011. J'ai deux DENSEP, j'en ai un en design d'objets et un en art. Et c'est assez drôle parce que j'ai un peu l'impression de faire des choses plus fonctionnelles maintenant que je suis artiste plutôt que quand j'étais designer. Et l'idée aujourd'hui, c'est que j'ai plutôt un travail d'installation assez grosse, qui peuvent paraître pour des dispositifs assez bricolés ou improvisés, mais qui, je pense, viennent se renverser grâce à ça. Et la pièce que je présente aujourd'hui s'appelle Le chômage. C'est une sorte de cible vaudou, où un peu à la manière d'un gris-gris, je suis venue planter le chômage, comme on pourrait planter la photo d'un petit ami avec des aiguilles d'acupuncture pour essayer de nous sauver de ce fléau. À la base, c'était une œuvre que je présentais dans un lycée et il y avait un petit peu ce côté où on rabâche toujours aux lycéens qui ne trouveront pas de boulot. Et du coup, j'avais envie de faire un peu quelque chose qui pourrait les faire rire et dédramatiser un peu sur la situation.
C'est une œuvre qui est plutôt, on va dire, humoristique, mais aussi en même temps terrible parce que c'est quand même le chômage dont on parle. Donc, tu as voulu jouer un petit peu sur ces deux tableaux.
Oui, je crois que dans mon travail, c'est toujours un peu comme ça. C'est toujours un peu chargé d'ironie ou satirique, mais ça n'empêche pas que je pense parler quand même de vraies tensions sociales ou de vraies choses. Enfin, voilà.
Donc, à découvrir, du coup, à l'étage du Moulin des Arts de Saint-Rémy.
Je te remercie. Merci à vous.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Jean-Pierre Benazet, directeur général de l'ADAPEI Aveyron Tarn-et-Garonne, accompagné de Dominique Rénal, directeur du foyer de ville La Borie de Graves, également des dolmens à Martial et du foyer des Taillades à Cap-de-Nac. J'ai dit l'ADAPEI, c'est juste un réflexe. L'association d'amis et parents de personnes handicapées mentales devient aujourd'hui la fondation Opteo. C'est un nouveau tournant historique pour cette association. Jean-Pierre Benazet, je vous propose peut-être de commencer par un petit retour sur la création de l'association et comment ces transformations s'inscrivent dans l'histoire. L'ADAPEI fondée le 26 avril 1963, très précisément, ici en Aveyron en tout cas.
Vous avez tout à fait raison de situer la transformation de l'association ADAPEI Aveyron Tarn-et-Garonne en fondation. Il faut le situer dans cette histoire, dans cette longue histoire. Au départ, en 1963, des deux côtés, à la fois dans le Tarn-et-Garonne et dans l'Aveyron, des parents qui étaient sans solution pour leurs enfants ou adultes ont décidé de se mobiliser pour faire évoluer la réglementation, la société, et pour trouver des solutions à leurs enfants. Et c'est comme ça que se sont créés les premiers établissements de l'ADAPEI, de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne. Nous avons eu ensuite une date très importante en 2014. Le poids de la gestion est de plus en plus important pour ces associations qui, d'associations militantes, sont devenues à la fois associations militantes et gestionnaires. Le poids de la gestion étant très important, il a été décidé d'un rapprochement entre l'ADAPI de l'Aveyron et l'ADAPI du Tarn-et-Garonne. Et ce rapprochement, après 3 ans de travail en commun, s'est terminé par une fusion en 2014, ce qui veut dire qu'en 2014 est apparue l'association ADAPI 1282.
Une grosse machine, hein, l'ADAPI, il faut bien le dire. Si on avait évoqué quelques chiffres, c'est 48 structures sur ces deux départements. Et puis on peut le dire, l'Aveyron a toujours été presque mieux doté que le Tarn-et-Garonne. En tout cas, à l'occasion de la fusion en 2014, il y avait plus de salariés en Aveyron, plus de structures également. Et c'est peut-être aussi logiquement, pour des raisons de gouvernance, de mutualisation de moyens humains et techniques, que vous vous êtes rencontrés.
Alors, mieux doté peut-être pas, mais disons que la particularité, c'est que dans l'Aveyron, l'opérateur principal est l'ADAPI, tandis que dans le Tarn-et-Garonne, il y a plusieurs organismes gestionnaires. Et effectivement, dans le rapport ensuite entre l'ADAPI 12 et l'ADAPI 82, la structuration de l'ADAPI de l'Aveyron était beaucoup plus expertisée du fait de moyens supplémentaires avec un siège social conséquent. Mais l'ADAPI du Tarn-et-Garonne a apporté, puisque les parents ont tout le temps continué à gérer, a apporté ce côté développement familial. Ce qui veut dire qu'au final, à ce jour, il y a plus de 2300 personnes accompagnées, 48 établissements et services, 1200 professionnels, 2 départements, et ensuite on a des mandats de gestion avec d'autres associations partenaires qui représentent 400 salariés de plus.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM. We'll be right back. CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
On ne finit pas les phrases.
Jeudi, et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue.
Revue de titres qui débute aujourd'hui avec l'info de la semaine.
L'info de la semaine, c'est évidemment le procès de Christian Espier qui a donc trouvé son dénouement vendredi dernier avec 15 ans de réclusion criminelle pour l'homme qui est le Villefranchois qui était accusé du meurtre de Thomas Latorre. Donc il a été jugé coupable par le jury d'assises et donc condamné à 15 ans de réclusion. Nous vous présentons le compte rendu de l'audience de ce procès d'assises, dans lequel, eh bien, on peut dire que Christian Espier n'a pas véritablement livré d'informations sur la méthode qu'il a employée pour tuer Thomas Latorre, hein. Il s'est muré, on va dire, dans une sorte de déni tout au long de ce procès. Ce que n'a pas manqué de relever l'avocat général, qui a pointé du doigt le fait qu'il ait livré en tout et pour tout 6 versions différentes de ce qui s'était passé. On va dire qu'il emporte à l'issue de ce procès, il emporte avec lui une part du secret qui entoure cette affaire. Vraisemblablement, et en tout cas, c'est la version qui a été retenue par les juges. Il y a eu une confrontation entre Thomas Latorre et Christian Espier qui faisait partie de la même association Cavalier et Calèche du Rouergue et dans laquelle eh bien, les deux hommes étaient un peu en rivalité. Christian Espier qui suivait un traitement à ce moment-là concernant des problèmes liés à son état d'anxiété et de nervosité et qui ne le prenait plus aurait entre guillemets, cédé à un coup de folie et aurait tué Thomas Latorre à coup de barre de fer. C'est en tout cas la version qui paraissait le plus plausible aux yeux des jurés et qui a été finalement validée par le tribunal. Mais le compte rendu de l'audience est complet et dans notre édition.
Agnès Beverina, coprésidente de l'association La Galerie La Tour Mont-Salès, bien connue de nos services radiophoniques. Je crois que la radio jalonne le parcours de la tour depuis quelques années. Je ne sais pas si ça fait pas 11 ans, date de création de l'association.
Oui.
C'est quoi votre parcours ? Alors aujourd'hui, coprésidente, une fonction que vous partagez avec Olivier Delange.
Oui.
C'est quoi votre parcours ? On n'arrive pas là au hasard à la Galerie La Tour Mont-Salès, je l'imagine. On a croisé pendant des années et des mois Colette et Daniel Lefranc-Bessa, qui sont deux des chevilles ouvrières, parce que vous êtes nombreux. Hein.
Oui.
Mais Colette et Daniel ont vraiment porté le projet.
Oui,
on peut
ce sont les fondateurs.
Ouais. Mmh.
Tout à fait.
Votre parcours.
Donc, la Galerie La Tour a débuté en 2008. Et moi, en 2008, je suis arrivée au poste de secrétaire de mairie à Mont-Salès. Donc, ça m'a permis de voir un peu le fonctionnement de l'association. Ça m'a permis aussi de découvrir des expositions de l'art, un secteur où je suis novice. Et c'est vrai que cette association est très ouverte, elle n'est pas sélective, elle permet à tout à chacun de découvrir, de se faire un avis propre. Et donc au bout de 2-3 ans, je suis rentrée dans le bureau en tant que secrétaire. Et donc j'ai fait un parcours avec eux pendant 3-4 ans. Après, je me suis retirée et là, c'est vrai que l'année dernière, Colette, Daniel, Mev Warburton, qui étaient dans le bureau, ont souhaité se retirer un peu parce que c'est vrai que c'est lourd à porter, cette association. Il y a beaucoup de choses à faire et donc pas beaucoup de personnes se sont proposées. Et avec Olivier, connaissant quand même l'intérêt de cette association, on s'est dit on peut pas laisser l'activité se terminer. Mmh. Donc, on s'est dit, moi, je peux pas être président, assumer tout seul la présidence, parce que c'est lourd aussi, c'est des fonctions importantes. Donc, on s'est dit, si tu y vas, j'y vais. Voilà.
Le coprésident exposait, il faisait partie des trois photographes qui exposaient pour la clôture de cette saison. Et vous, Agnès Beverina ?
Alors moi, je m'essaye surtout pas au dessin ni à la peinture. Non, je suis pas du tout artiste. Mais c'est voilà, c'est tout l'intérêt de cette association. C'est vrai que bon, elle a été fondée par un noyau de gens du milieu artistique, hein, et c'est pour ça aussi qu'elle existe, qu'elle est reconnue dans la qualité de ses expositions. Mais voilà, ces fondateurs sont tellement ouverts qu'ils savent associer les gens. Chacun apporte de ses compétences. Donc c'est vrai, ben moi j'apporte le côté administratif, relations avec les partenaires, parce qu'on travaille bon avec la mairie, avec le conseil départemental. C'est vrai que cette association, comme dit souvent Monsieur Masbou, conseiller départemental, a permis de faire connaître Mont-Salès sur le territoire. Et puis en plus maintenant, on fait partie d'un réseau de galeries. Hein. Il y a les galeries à Villeneuve, il y a Saint-Rémy, voilà. Il y a quand même un tissu culturel en milieu rural très intéressant en Aveyron.
Ah, c'est la fin.
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement ni fin, et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le mag. Tous les jours,
12h, 12h30.
La vie du Villefranchois.